Amen, alléluia. Voilà, eh bien, on va ouvrir la parole du Seigneur dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 2 et au verset 13. Matthieu, chapitre 2, verset 13. Et là, il est écrit, « Lorsqu'ils furent partis, voici, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, « Lève-toi. » Prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte, et il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète, « J'ai appelé mon fils hors d'Égypte ». Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère, et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. Amen. Voilà. Là, nous voyons qu'il est question du roi Hérode, donc d'un Hérode au moins, qui vivait donc au moment de la venue de Christ sur terre, de sa naissance. Ce n'est pas le seul Hérode qu'il y ait. Qui a existé, qui a vécu. En fait, la Bible nous parle de 4 rois qui se prénommèrent Hérode, et même d'un 5e qui avait pratiquement le même nom, Hérodion, donc, qui n'était pas roi, du moins pas dans le même sens que les 4 autres. Et ce soir, nous voulons parler de ces hommes qui se prénommèrent Hérode, et nous verrons que chacun d'eux a quelque chose à nous enseigner à nous aujourd'hui. Non pas qu'ils aient été prédestinés à cause de leur nom, hein, mais par contre, nous pouvons croire que si la parole de Dieu nous rappelle des noms précis, c'est qu'il y a aussi des raisons. Hein, donc, elle n'y serait pas obligée, d'ailleurs, il y a d'autres situations où les personnes ne sont pas nommées, mais s'il en est ainsi, c'est afin que nous puissions les associer, que nous puissions les comparer, ce que nous voulons faire maintenant. Donc, nous pourrons voir successivement Hérode le Grand, entre guillemets, remarquable par son esprit de domination qu'il a amené à s'opposer à Christ. Hein, nous voyons ce qu'il a fait dans notre texte. Après, vous avez Hérode Agrippa Ier, qui tenait beaucoup à son image de marque, et ça a été aussi malheureusement l'occasion pour lui de s'opposer au Seigneur. Vous avez Hérode Antipas, qui a toujours remis les choix plus tard, hein, donc il s'est présenté, il a eu le choix aussi de se tourner vers Dieu, de ne pas le faire, et parce qu'il a remis le choix plus tard, il est amené malheureusement à faire le mauvais choix à un moment. Et vous avez Hérode Agrippa II, un homme qui connaissait tout concernant le christianisme, concernant le message de l'évangile, qui connaissait tout, mais qui n'a pas pris position pour Christ et qui se retrouvait là encore à cause de cela dans le camp des adversaires du Seigneur. Et vous avez ce fameux Hérodion, celui qui est venu à Christ, je dirais, dans l'humilité, hein, qui est resté quelque part beaucoup dans l'anonymat, on sait peu de choses à son sujet, mais quand même suffisamment pour avoir cette assurance qu'il y a pour lui une bien belle place dans la gloire. Donc en premier, parlons d'Hérode le Grand, voici un homme dans lequel il y avait un esprit de domination. Notre texte de départ nous montre qu'il avait une idée fixe, c'était le pouvoir absolu, ça c'était sa vie, et il avait une crainte, il avait une obsession, donc c'était qu'on lui prenne ce pouvoir, et à cause de cela déjà, l'histoire ancienne, l'histoire antique, nous apprend qu'il avait tué Mariamne, sa première femme, ainsi que successivement 3 de ses fils, dont il suspectait les ambitions politiques, au point que l'empereur romain de l'époque, donc, avait raillé un jour en s'écriant « Il vaut mieux être le porc d'Hérode que son fils ». Hein, donc voilà, un homme rempli bien sûr d'une jalousie maladive, insensée, et qui voyait continuellement des complots partout, même où il n'y en avait pas à l'ombre d'un. Hein, donc, il est évident que quand cet homme a entendu parler de la venue de Christ et que ce Christ était annoncé comme le futur roi d'Israël, alors il a été prêt à prendre n'importe quelle mesure pour empêcher ça. Même pas essayer de savoir de quel genre de royauté il était question, puisqu'en fait, il s'agissait d'une royauté spirituelle dont Jésus parle. Hein. « Mon royaume n'est pas de ce monde », a répondu Jésus à ceux qui lui demandaient des explications. Mais Hérode, lui, voulait rien savoir, hein. Il voulait commander, diriger, toute chose, c'était un despote, un tyran, sans pitié, et lui-même aussi ne voulait se soumettre à rien, il voulait soumettre sa volonté à personne, et vous savez, Il y a des gens, ils ont un esprit comme ça. Hein. Ça existe aujourd'hui, les gens qui ont un esprit comme ça, ben voilà, parce qu'ils veulent absolument diriger toute chose dans leur existence et éventuellement aussi dans celle des membres de leur entourage, de la manière qui leur plaît. Hein, ils ne cherchent pas à faire la volonté de Dieu, ils ne veulent faire que ce qui leur convient, et c'est un désastre pour eux au bout du compte. Pourquoi ? Parce qu'à cause de cela, ben, ils sont amenés à rejeter Jésus. Alors, ils veulent bien encore du petit Jésus de la crèche, éventuellement, hein, donc ça peut être encore, voilà, parce que ben, quelque part, on peut le manier comme on veut. Un Jésus sur une croix, encore, ça peut leur convenir, parce que ce Jésus-là, ben, il est impuissant dans la position où il est. Mais un Jésus Seigneur, un Jésus sur le trône, oh, ça, c'est plutôt beaucoup plus compliqué pour eux, hein, et ils ne veulent pas de cela. Et c'est vrai que notre devoir, c'est quand même de nous soumettre sous la puissante main de Dieu. Et l'Écriture nous dit que si nous nous soumettons, eh bien le Seigneur est celui qui va aussi nous élever et bénir notre vie et notre âme et agir pour nous exaucer. Amen. Ensuite, Hérode Agrippa Ier, donc un homme qui tenait beaucoup à ce qu'on pensait, à ce qu'on disait de lui. Et là, je vous invite à lire dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 12, versets 1 à 3. Déjà, et un peu plus loin encore après. Je lis Actes 12, verset 1er. « Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église, et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. » Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Alors on arrête là pour l'instant, et puis on lit maintenant verset 20, du jour de cet Hérode-là qu'il est question. Hérode avait des dispositions hostiles à l'égard des Tyriens et des Sidoniens. Mais ils vinrent le trouver d'un commun accord, et après avoir gagné Blaste, son chambellan, ils sollicitèrent la paix parce que leur pays tirait sa subsistance de celui du roi. Un jour fixé, Hérode, revêtu de ses habits royaux et assis sur son trône, les harangua publiquement. Le peuple s'écria « Voix d'un dieu et non d'un homme !» Au même instant, un ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu et il expira rongé des vers. Cependant, la parole de Dieu se répandait de plus en plus et le nombre des disciples augmentait. Donc voilà un homme. C'était un fin politicien, quelque part. Hein. Donc, il prenait nombre de ses décisions d'après l'opinion publique. C'est ce qu'on voit au départ, hein, quand il a arrêté Pierre, qu'il a fait tuer Jacques. Déjà, c'était parce qu'il a vu que ça plaisait à une majorité de religieux de son peuple. Donc, il a dit, voilà, puisque le sondage me dit que c'est comme ça, donc je vais marcher suivant le sondage d'opinion. Hein. Et c'est pour ça aussi qu'il s'est opposé à l'œuvre du Seigneur, hein, parce qu'il voyait bien que s'il faisait ainsi, il en tirerait de la popularité auprès d'un grand nombre de ses sujets. Il voulait être bien vu, parce que là encore, c'était la gloire qui était son objectif suprême. Et c'est encore plus évident quand nous voyons ce qui s'est passé avec les Tyriens et les Sidoniens à la fin de notre chapitre. Hein, parce que le voilà qui les harangue, et eux, ils se mettent à le flatter, comme ils le flattent, hein, et comme lui se rengorge. Comme il est heureux, hein, tant que quelque part il nage dans le bonheur, hein, si on peut dire, il est comme un paon qui fait la roue, je ne sais pas si vous avez déjà vu un paon qui fait la roue, hein, c'est vraiment ça, et s'il n'était pas roi, on pourrait même dire de lui que le roi n'est pas son cousin. Hein. Donc, enfin, le voilà arrivé au fait de son idéal, il est convaincu que l'opinion générale de tous ceux qui sont là, c'est que lui est suprêmement favorable, puis en plus, on sait bien que c'est pas vrai, hein, mais malgré tout, il croit cela. Et puis, voyez ce qui lui arrive. Hein. Vous savez, c'est un autre Hérode, mais pas tout à fait Hérode, c'est Hérodote, qui était un philosophe et un homme d'État de l'Antiquité, et Hérodote d'Halicarnasse, qui a dit « S'ils n'attendaient pas quelque profit de leur conduite, l'homme véridique mentirait tout aussi bien, et le menteur dirait la vérité. » Donc je vous redis ça, s'ils n'attendaient pas, ici le pluriel, n'attendaient pas quelque profit de leur conduite, l'homme véridique mentirait tout aussi bien et le menteur dirait la vérité. Voilà que la vanité, la folie de cet Hérode vont devenir une évidence frappante aux yeux de tous, hein, il tombe rongé de vers, vous a-t-il dit, parce qu'il n'a pas donné gloire à Dieu, parce qu'il a voulu prendre la gloire pour lui-même. Et ça aussi, c'est quelque chose qui doit être un avertissement solennel pour tout homme, parce que là aussi, eh bien, c'est vrai qu'il y a bien des gens qui pourraient connaître la valeur de la cause de Christ, qui la connaissent peut-être même, en tout cas, ils peuvent l'anticiper, ils peuvent la ressentir, ils peuvent, s'ils se mettent à approfondir la question, eh bien, ils savent, ils ressentent plus ou moins qu'ils vont découvrir cela. Et donc, ils savent qu'ils devraient suivre Christ. Et que la chose juste, la chose normale, serait qu'ils se repentent, serait qu'ils viennent à lui, serait qu'ils marchent dans sa parole. Mais ils ne le font pas parce qu'ils ne veulent pas le faire. Ils ne veulent pas le faire parce que, oui, parce qu'ils ont peur de l'opinion d'autrui, peut-être. Hein. Ils ont peur d'être moqués, d'être critiqués dans leur entourage. Ils ont crainte de perdre l'estime de certains. Ils ne veulent pas être mal vus, ils ne voudraient pas que leur gloire en prenne un coup quelque part. Hein, donc, et ils se croient quelque chose, ils voudraient que les autres les prennent toujours pour quelque chose, et ils sont faits en fait semblables à ces pharisiens qui n'ont pas voulu venir à Christ. Et l'Évangile nous en donne la raison, il est marqué « ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu ». Et oui, et c'est pour eux que le Seigneur Jésus a prononcé ces paroles « quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aussi aura honte de lui. » Hein, donc, c'est pourquoi, alors qu'aujourd'hui, l'appel à suivre Jésus retentit encore, il faut que chacun de ceux qui entendent cet appel viennent à lui sans s'arrêter à l'opinion des uns ou des autres. Et je dirais que ce sera là la preuve d'un véritable courage, et puis d'un véritable désir de vérité, d'une véritable sincérité qui est d'un grand prix devant Dieu. Amen. Je poursuis, voici Hérode Antipas, un homme qui voulait ménager en quelque sorte les choses de Dieu et celles du monde, expliquons-nous, Marc chapitre 6, verset 14. Marc chapitre 6, verset 14 à 28. Lisons, « Le roi Hérode entendit parler de Jésus, dont le nom était devenu célèbre, et dit, « Jean-Baptiste est ressuscité des morts. » Et c'est pour cela qu'il se fait par lui des miracles. D'autres disaient, « C'est Élie !» Et d'autres disaient, « C'est un prophète comme l'un des prophètes. » Mais Hérode, en apprenant cela, disait, « Ce Jean que j'ai fait décapiter, c'est lui qui est ressuscité. » Car Hérode lui-même avait fait arrêter Jean et l'avait fait lier en prison à cause d'Hérodias, femme de Philippe, son frère, parce qu'il avait épousé, et que Jean lui disait, « Il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère. » Hérodias était irritée contre Jean et voulait le faire mourir. Mais elle ne le pouvait, car Hérode craignait Jean, le connaissant pour un homme juste et saint. Il le protégeait, et après l'avoir entendu, il était souvent perplexe et l'écoutait avec plaisir. Cependant, un jour propice arriva, lorsqu'Hérode, à l'anniversaire de sa naissance, donna un festin à ses grands, aux chefs militaires et aux principaux de la Galilée. La fille d'Hérodias entra dans la salle, elle dansa et plut à Hérode et à ses convives. Le roi dit à la jeune fille, « Demande-moi ce que tu voudras, je te le donnerai. » Il ajouta avec serment, « Ce que tu me demanderas, je te le donnerai, serait-ce la moitié de mon royaume ?» Étant sortie, elle dit à sa mère, « Que demanderai-je ? » Et sa mère répondit, « La tête de Jean-Baptiste. » Elle s'empressa de rentrer aussitôt vers le roi et lui fit cette demande, « Je veux que tu me donnes un instant sur un plat la tête de Jean-Baptiste. » Le roi fut attristé, mais à cause de ses serments et des convives, il ne voulut pas refuser. Il envoya sur le champ un garde avec l'ordre d'apporter la tête de Jean-Baptiste. Le garde alla décapiter Jean dans la prison et apporta la tête sur un plat. Il la donna à la jeune fille et la jeune fille la donna à sa mère. C'est une affreuse histoire, hein ? Vous savez, il y a beaucoup de contes de fées qui sont comme ça, hein ? Dans une histoire, voilà, il y a une jeune fille, ceci, cela, puis vous avez le roi, le prince qui dit « C'était la moitié du royaume, je te le donne, tu peux sinon dis ce que tu veux. » Après, ça vire au cauchemar hein, dans la Bible, là, parce que c'est horrible. Hein. Imaginez la jeune fille, hein ? J'essaie de m'imaginer le travail psychologique que ça a dû faire dans la tête de la jeune fille, cette histoire. Hein. Bon, c'est tout, c'est pas. Nous sommes à Hérode, nous ne sommes pas à son cas, qui mériterait aussi d'être considéré. Donc, voici un Hérode qui avait entendu la parole de Dieu. Hein. Par la bouche de Jean, vous savez, Jean, il lui a tout dit. Hein. Tout ce qu'il fallait lui dire, il lui a dit. On le voit, c'est très clair. Hein. Et cette parole, quelque part, avait touché son cœur. Hein, comme la parole de Dieu peut toucher le cœur, peut-être, de certains aujourd'hui. Alors, il n'avait pas encore la réponse à toutes ces questions, hein, Hérode. Mais il l'avait cependant assez entendu pour que ça le trouble et que ça le rende perplexe, comme dit notre texte. Hein. Et d'autre part, il avait vu le témoignage de vie de Jean-Baptiste. Il n'avait pas entendu seulement son discours. Hein. Il savait que cet homme était un homme de Dieu, que c'était un prophète, et par conséquent, que le message qu'il lui transmettait, c'est un message qui venait du Seigneur, un message qui venait de Dieu. Mais Hérode, c'était quelqu'un qui ne faisait pas de choix. Il ne répondait pas, il écoutait souvent Jean-Baptiste, et même, s'est-il dit, avec plaisir, mais il ne faisait pas de choix, il ne prenait pas de décision pour le Seigneur, il reculait toujours le moment de faire le choix. Alors finalement, d'un seul coup, au moment où il ne s'y attendait pas, bien, il va être obligé de faire le choix, être obligé de faire un choix. Et là encore, il aurait voulu ménager les deux, il aurait voulu garder Jean-Baptiste parce qu'il percevait en lui le prophète de Dieu, et puis il aurait voulu répondre aussi aux caprices de Salomé, donc parce qu'elle était belle, etc. Vous savez, beaucoup d'hommes pensent qu'on peut servir Dieu et soi-même, hein, et qu'il est possible de mener de front les exigences de l'Évangile et les demandes du monde. Mais Jésus a dit « Nul ne peut servir deux maîtres ». C'est une réalité. Et même si on ne veut pas choisir, un jour ce choix, il s'impose à nous. Hein, comme dans cette situation. Hérode n'aurait pas été obligé de tuer Jean-Baptiste. Hein. Il aurait pu s'humilier et puis dire « Non, mais je n'avais pas pensé à cette chose-là, mais cette chose-là, non, il n'y a pas question. » Il aurait pu faire autrement. Hein, donc, mais en tout cas, quand on se retrouve coincé comme ça, le risque, c'est toujours de faire le mauvais choix, hein, comme on le voit. Parce que maintenant, Hérode Antipas, eh bien, le voilà qui aura inexorablement basculé du mauvais côté. Hein. Donc, plus tard, dans Luc chapitre 13, je ne vais pas lire le passage, je cite juste la référence, au verset 31, il est dit qu'il veut tuer Jésus. Jésus qu'il appelle donc ce renard. À cause de sa ruse, à cause de sa dissimulation, à cause de sa recherche obsessionnelle de son intérêt. Dans Marc chapitre 8 au verset 15, Jésus met en garde ses fidèles contre l'enseignement contagieux d'Hérode, hein, qui risquerait de les empêcher de s'engager pleinement dans la voie de la foi. On voit vraiment l'opposition. Encore dans Luc 23, au verset 7 à 15, nous voyons que Jésus, amené devant lui, ne lui a montré aucun miracle, ne lui a dit aucune parole, hein, alors qu'il espérait ça, parce qu'il avait cette curiosité malsaine, hein, donc, et cette curiosité va se transformer donc en mépris, en raillerie à l'égard de Christ, même si implicitement, il est obligé de reconnaître que Jésus n'est coupable de rien, hein. Donc, et voyez où conduit le fait de ne pas répondre à l'appel de la parole de Dieu quand le Seigneur nous invite à le faire, hein, quand notre cœur nous parle. Et c'est pour ça qu'il est important de ne pas être de ceux qui ont un cœur qui cloche des deux côtés, hein, de ne pas être de ceux qui prétendent suivre la voie du monde et en même temps celle de Christ. Il faut qu'on se détourne de la voie de l'arche qui mène en bas, pour marcher résolument dans le chemin étroit qui mène à la vie qui conduit au ciel. Amen. Et c'est ainsi que l'approbation et la bénédiction du Seigneur sera sur nous. Parce que si vous savez séparer ce qui est précieux de ce qui est vil, eh bien vous aussi vous serez comme la bouche du Seigneur. Amen. Amen. Et puis en quatrième, voici Hérode Agrippa II, un homme qui ne s'est laissé persuader qu'intellectuellement. Expliquons-nous. Nous sommes maintenant dans Actes chapitre 26. Actes 26. Et au verset 26. Voilà. Acte 26, verset 26. Je lis déjà au verset 25. Je ne suis point fou. « Très excellent Festus, répliqua Paul. Ce sont au contraire des paroles de vérité et de bon sens que je prononce. Le roi est instruit de ces choses, et je lui en parle librement, car je suis persuadé qu'il n'en ignore aucune, puisque ce n'est pas en cachette qu'elles se sont passées. Crois-tu au prophète, roi Agrippa ?» Donc c'est Hérode Agrippa. Hein. « Je sais que tu y crois. » Et Agrippa dit à Paul, « Tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. » Paul répondit, « Que ce soit bientôt ou que ce soit tard, plaise à Dieu que non seulement toi, mais encore tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, vous deveniez tels que je suis, à l'exception de ces liens. Le roi, le gouverneur, Bérénice et tous ceux qui étaient assis avec eux se levèrent et en se retirant, ils se disaient les uns aux autres, « Cet homme n'a rien fait qui mérite la mort ou la prison. » Et Agrippa dit à Festus, « Cet homme aurait pu être relâché s'il en avait appelé à César. » Voilà. Alors Paul, il a prononcé une harangue, il a prononcé une démonstration, une prédication de la parole de Dieu. Et cet Agrippa-là, cet Hérode Agrippa, est un des auditeurs et de notre texte qui rend compte de cela, nous font conclure plusieurs choses. Déjà, en premier, qu'Agrippa, Hérode Agrippa, sait exactement de quoi il est question. Il n'en ignore rien, il est au courant de tout, hein. Paul lui dit, et c'est vrai, hein. Et puis en plus, Agrippa croit aux prophètes, hein, donc à leur message, à leur inspiration de Dieu, donc à leur autorité, à l'autorité de la parole de Dieu. Et une troisième chose, Agrippa sait exactement à quelle conclusion il faudrait qu'il arrive. Hein, donc il faudrait que lui, Agrippa, arrive, il faudrait qu'il devienne chrétien. La conclusion de savoir tout ça, c'est ça. Hein. Et en partant, il reconnaît pardon, non seulement l'innocence de Paul, mais encore la valeur, la vérité des paroles qu'il a prononcées, même si c'est d'une façon indirecte qu'il le reconnaît, mais il le reconnaît. Je dirais que cet homme est intellectuellement convaincu. Voilà, donc, dans ses pensées, dans son raisonnement, il sait que tout ce que Paul a dit est vrai, il sait ce qu'il doit faire, il connaît la chose en théorie, mais oh tragédie, il ne la met pas en pratique. Il ne la met pas en pratique. Vous savez, l'épître de Jacques nous rappelle qu'un homme qui entend le message de la parole de Dieu et ne la met pas en pratique est semblable à celui qui plonge son regard dans un miroir pour voir son visage naturel et qui ensuite s'en détourne et oublie aussitôt comment il était. Donc voilà. Hein, donc, et voilà donc que vous êtes là, que nous sommes là ce soir. Hein, donc la parole de Dieu retentit dans les cœurs. On peut savoir si on le désire que cette parole est vraie. Et la question se pose maintenant, qu'allez-vous faire? Qu'allez-vous faire? Est-ce que vous allez repartir simplement en disant, ben voilà, c'est bien, j'ai entendu, et continuer à fonctionner exactement comme avant, une foi de théorie qui n'amènera aucune réponse de la part de Dieu? Ou alors, si vous voulez que Dieu agisse, eh bien, il faut avoir une vraie foi. Avoir une foi réelle, une foi de décision pratique. C'est-à-dire engager non seulement ses bonnes intentions ont leur temps, les bonnes intentions ont leur place, mais il faut engager après sa personne. C'est ça le grand point. Et ne pas hésiter à le faire sans tarder. Si nous ne voulons pas que Dieu tarde à notre égard, il ne faut pas non plus qu'on tarde de notre côté. Soyons cohérents tout de même. Hein. Si nous venons à lui maintenant, si nous venons à lui de tout notre corps et de tout notre cœur, eh bien à ce moment-là, si vous marchez pour lui, il marchera aussi pour vous. Amen. Amen. Et j'en arrive à Hérodion, celui qui est humblement venu à Christ, donc, mais qui a certainement une bien belle place dans la gloire. Nous sommes là dans Romains chapitre 16. Romains chapitre 16, au verset, on va lire les versets 7 jusqu'au verset 12. C'est une liste de salutations. Saluez Andronicus et Junias, mes parents et mes compagnons de captivité, qui jouissent d'une grande considération parmi les apôtres et qui ont même été en Christ avant moi. Saluez Amplias, mon bien-aimé dans le Seigneur. Saluez Urbain, notre compagnon d'œuvre en Christ. Et Stachis, mon bien-aimé. Saluez Apelles, qui est éprouvé en Christ. Saluez ceux de la maison d'Aristobule. Saluez Hérodion, mon parent. Saluez ceux de la maison de Narcisse, qui sont dans le Seigneur. Saluez Tryphène et Tryphose, qui travaillent pour le Seigneur. Saluez Perside, la bien-aimée, qui a beaucoup travaillé pour le Seigneur. Et on va arrêter là, parce qu'on pourrait continuer, mais rappelez-vous, au début du verset 11, saluez Hérodion, mon parent. Donc, Hérodion était parent de l'apôtre Paul. Il ne s'est pas dit grand-chose à son sujet, mais ce lien de parenté, c'était quelque chose d'infiniment plus précieux que toutes les lignées royales de tous les Hérodes dont nous avons parlé jusqu'à présent, hein, donc, dont nous avons pu parler auparavant. Et l'apôtre Paul était considéré, bon, lui-même se considérait aussi comme faible, que sa parole était méprisée de beaucoup, mais quel homme de Dieu! Et je dirais, quel avantage pour ceux qui faisaient partie de sa parenté, Et c'est vrai, bien des fidèles ont eu des promesses de bénédiction sur leur famille à cause de leur foi. On a bien souvent vu cela. Lorsque vous avez le geôlier de Philippe, par exemple, dans l'Écriture, rappelez-vous comment non seulement lui, mais que toute sa famille se sont réjouis de ce qu'il avait cru en Dieu, et de la belle et bonne influence qu'il y a eu là. Vous avez aussi la famille d'Onésiphore, dont il nous est parlé par ailleurs, ou d'autres encore. Et c'est l'apôtre Paul qui, pour tous ces gens-là, avait été le canal divin par lequel cette bénédiction s'était répandue sur eux et sur leur famille. Alors n'était-il pas normal que lui aussi ait une bénédiction spirituelle sur ses parents ? Et ça voulait pas dire, bien sûr, que ceux-là n'avaient plus qu'à se laisser bercer parce qu'ils avaient l'apôtre Paul dans leur cercle de famille. Non, bien sûr, ils auraient aussi leur engagement à prendre, ils auraient aussi leur combat de foi, mais ils seraient soutenus spirituellement par les prières, par les exhortations et l'exemple de l'homme de Dieu avec sa contagieuse bénédiction. Amen. Et aujourd'hui, si vous recevez cette parole qui a été prêchée par Paul, vous entrerez aussi dans cette même famille spirituelle que lui, et vous serez comme lui, fils du Père Céleste, et vous aurez droit aux mêmes bénédictions et aux mêmes grâces. Amen. Alors certains vont dire, bah oui, mais ce n'était pas le fait parce qu'il était parent avec Paul, ça ne prouve pas qu'il s'est converti, l'habit ne fait pas le moine, hein, et il y a des crapules qui peuvent avoir des archevêques dans leur cousinage, hein, comme on disait l'autre, hein, donc. Mais notre Hérodion, vous le voyez, qui se trouve au milieu d'une liste de croyants qui sont fidèles, qui sont recommandables à divers titres, et c'est pourquoi nous pouvons raisonnablement, fort raisonnablement penser que cet homme est sauvé parce qu'il faisait harmonieusement partie de cette liste-là. Je reprends juste au verset 7, Andronicus et Junias, mes parents, encore, voyez-vous, encore, hein, et compagnons de captivité, pour Christ bien sûr, hein, Amplias, bien-aimé dans le Seigneur, Urbain, compagnon d'œuvre en Christ, Stachys, le bien-aimé, Apelles, éprouvé en Christ, ceux de la maison d'Aristobule, et voici Hérodion, donc, son parent qui arrive à ce point de la liste, cette liste bénie, hein, et puis ça continue avec ceux de la maison de Narcisse dans le Seigneur, Tryphène et Tryphose qui ont beaucoup travaillé pour le Seigneur, ce sont de belles recommandations que d'avoir de telles compagnes et de tels compagnons. Hérodion se trouvait dans leur communion. C'est vrai, bien peu de choses sont dites à son sujet. Et là aussi, eh bien, ça nous parle d'effacement, ça nous parle d'humilité, ça nous met très en contraste avec la soif de gloire et de puissance des précédents Hérodes, dont nous avons pu dire quelques mots. Et l'Écriture, parlant aux fidèles, leur dit « Votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. » Alléluia. C'est dans Colossiens chapitre 3 et au verset 3. Et l'abaissement avec Christ, ici-bas, va produire une glorieuse élévation dans la vie à venir. Mais la recherche de l'élévation ici-bas, eh bien, ça ne peut produire qu'un abaissement en ce qui concerne la gloire à venir. Alors, eh bien, en conclusion, eh bien, nous sommes appelés à rejeter tout esprit de domination pour soumettre notre cœur au Seigneur, hein. Et puis, nous sommes appelés aussi à ne pas nous arrêter aux opinions d'autrui, ben nous engager pleinement dans la voie de Dieu en considérant l'opinion de Christ. Alléluia. Et puis nous sommes appelés à ne pas remettre cette décision à plus tard, hein, mais à la prendre, à le faire résolument dès aujourd'hui. Et ne pas le faire seulement en théorie, mais en pratique et en vérité. Que faut-il que je fasse pour être sauvé ? C'est écrit le geôlier de Philippe. Amen. Et nous sommes invités, bien sûr, à entrer dans la communion de ceux qui sont ainsi dans le Seigneur de la même manière. Béni soit notre Dieu. Amen. Amen.